entre Drahi et Bartas. Une émission proposée par Radio Bartas et Télé-Drahi. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième émission entre Drahi et Bartas en simultané sur Radio Bartas et sur Télé-Drahi. C'est avec un grand plaisir que nous vous proposons cette émission, que nous faisons en partenariat, c'est toujours un plaisir. L'idée, c'est de vous proposer le portrait d'une personne qui s'investit sur un territoire, qui le fait vivre ou qui l'aide. Et pour cette deuxième, nous recevons avec plaisir Monsieur Christophe Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la mission locale de Lozère et c'est bien de ça dont il va être question aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire, ça va être passionnant. Pour m'accompagner aujourd'hui pour Télé-Drahi, Cathy, bonjour.
Bonjour.
Et pour Midi Libre, mais aussi bénévole à Radio Bartas, François, bonjour.
Bonjour.
Voilà, toute l'équipe est en place. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission entre Drahi et Bartas. Aujourd'hui, la mission locale est à l'honneur. François.
Alors, monsieur Henry, bonjour.
Bonjour.
On va rentrer effectivement dans les détails de ce qu'est une mission locale. Alors, auparavant, on parlait de MLI, mission locale d'insertion. Donc, c'était l'ancien nom. Aujourd'hui, on parle de mission locale Lozère. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop ce qu'est une mission locale, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands principes, les grandes missions ?
Oui, alors mission locale, en fait en France il y a plusieurs missions locales réparties dans les différents départements. On a la spécificité en Lozère d'être un département peu peuplé, mais par contre bon, assez vaste géographiquement. Et on n'a qu'une seule mission locale, d'où le nom de mission locale Lozère. Après, dans d'autres départements, on peut avoir plusieurs missions locales. Donc voilà, ça dépend un petit peu les endroits du territoire. Les missions locales, pour vous donner un petit peu les missions classiques, on est sur l'accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans. Voilà. Quand on a dit ça, on a résumé vraiment en gros ce que fait une mission locale. On n'est pas destiné à remplacer Pôle emploi, on n'est pas forcément le pôle emploi des jeunes. On est une porte d'entrée pour les jeunes de 16 à 25 ans, quelles que soient leurs problématiques, et c'est pour ça que la notion d'accompagnement global est très importante. Après, voilà, on a sur le territoire français plein de missions locales qui ont ces missions-là. Après, chacune a quelques spécificités, on le verra sûrement plus tard. En Lozère, voilà, on a quelques spécificités, on fait des choses un petit peu en plus par rapport à d'autres missions locales, mais voilà, les missions locales voilà, aujourd'hui sont un acteur important de l'accompagnement, je préfère accompagnement plutôt qu'insertion, mais c'est, les missions locales sont des acteurs incontournables de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans en France.
Très bien. Vous concernant, vous êtes à la direction de la mission locale depuis combien de temps ?
Alors moi je suis donc le directeur de la mission locale Lozère depuis maintenant 2 ans. Je suis arrivé en juin 2019, donc recruté par notre présidente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les missions locales sont sous forme associative. Donc une mission locale, c'est une association avec, donc, pour ce qui nous concerne en Lozère, une présidente qui est Madame Patricia Brémond, qui est donc une élue départementale. C'est la présidence avec le conseil d'administration qui donne les orientations, qui donne la stratégie. Et moi, en tant que directeur, c'est à moi que revient la mise en place de cette stratégie de façon opérationnelle. Et puis après, on a toute une équipe. Aujourd'hui, la mission locale Lozère, c'est 22 personnes.
D'accord.
Donc ça commence à être une équipe assez conséquente qui est mobilisée sur les missions qu'on va pouvoir détailler.
D'accord. Et ces 22 personnes, vous avez plusieurs services au sein de la...
Oui, alors dans les 22 personnes, on a des conseillers et des conseillères en insertion professionnelle, on a du personnel administratif, on a du personnel d'accueil, voilà. Après on a différentes missions donc sur lesquelles sont réparties ces différentes personnes.
Oui, donc tout à l'heure, vous évoquiez Pôle emploi. Vous précisiez que vous étiez plutôt une porte d'entrée pour les jeunes. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez, comment ça s'articule avec Pôle emploi ?
Alors, Pôle emploi reste l'interlocuteur du demandeur d'emploi parce qu'il y a les inscriptions à Pôle emploi. Ça permet d'accéder à tout un tas de services. Après, sur le public spécifique des 16-25 ans, l'accès à l'emploi est forcément quelque chose d'important, à l'emploi ou à l'information, mais pas que. Ce public-là a besoin d'un accompagnement plus global et on a quelquefois des freins à lever pour être employable. Voilà, et on va pouvoir, par rapport à Pôle emploi, on va apporter un accompagnement plus global. Voilà, qu'est-ce que peut apporter Pôle emploi ? On travaille en partenariat avec Pôle emploi, on n'est certainement pas concurrent. Donc ça, je dis ça de façon classique, c'est ce qui se passe sur le territoire, mais plus spécifiquement à Lozère. On a la chance, on en parlera sûrement après, de travailler avec de nombreux partenaires. Le fait qu'on soit peut-être peu nombreux fait qu'on peut facilement prendre les téléphones des uns et des autres pour mettre en place des actions. Et avec le Pôle emploi demande, et notamment avec la directrice Florence Mastavet, on a des relations qui sont excellentes. Et on organise des job dating ensemble. Enfin, voilà, on essaye de travailler ensemble. On est tout sauf concurrents. Pôle emploi nous envoie aussi... Alors, quand il y a des jeunes qui vont à Pôle emploi, quelquefois, ils peuvent s'occuper, suivant leur problématique, ils peuvent s'occuper d'eux comme ça, en direct, il n'y a pas de souci particulier. Mais aussi, ils nous en renvoient un certain nombre voilà, pour qu'on assure le suivi, nous, derrière.
Est-ce que vous savez, aujourd'hui, en Lozère, combien de jeunes font appel à la mission locale tous les ans à peu près, et combien pourraient en disposer, mais qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas ? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres un peu...
Oui, on peut avoir des chiffres. Aujourd'hui, la mission locale Lozère, c'est très variable suivant les années, et on sort d'une année 2020 un petit peu particulière. Donc, on ne va pas forcément tenir compte de l'année 2020, mais la mission locale Lozère, c'est entre 500 et 600 jeunes qui sont accueillis pour la première fois sur une année. C'est-à-dire des jeunes qu'on ne connaissait pas avant, sur une année, la première fois qu'on a un contact avec eux, la première fois qu'ils viennent nous voir, la première fois qu'ils nous sollicitent, entre 500 et 600 par an. Après, on a des jeunes en suivi, donc on peut suivre pendant plusieurs années, et à ce moment-là, on est sur des volumes entre 1200 et 1500 jeunes, à peu près, voilà, qu'on suit. On a une autre donnée de l'INSEE, qui est celle des jeunes qui sont donc jeunes lozériens, donc habitants sur le territoire de la Lozère, qui sont ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation. Là, on a un volume à peu près de 1200-1300 jeunes. Alors, ce sont des statistiques. Quelquefois, quand on les appelle, les statistiques ne sont pas à jour, finalement, ils travaillent, voilà. Mais ça donne quand même à peu près un volume. Voilà, donc on a quand même un certain potentiel. Et là, je parle bien du territoire de la Lozère, où on est présent sur l'intégralité du territoire, puisque on a certes notre siège social qui est à Mende, mais on a quand même 14 lieux de permanence sur le territoire, parce que les jeunes aujourd'hui ont des soucis quand même de mobilité sur le département, donc on essaye au maximum, ben, nous, d'aller vers eux. En fait, on en reparlera après, mais voilà, la notion d'aller vers, voilà, c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment, mais c'est pas que parce que c'est à la mode que c'est intéressant, voilà, il y a un réel besoin derrière.
Cathy.
Oui, on sait que vous avez pas mal de missions, vous menez pas mal d'actions, et finalement, concrètement, pour un jeune, quand il arrive à la mission locale, comment ça se passe pour lui ? Voilà, il se passe quoi ? Comment il est accueilli ?
Alors déjà, ce jeune, il peut nous solliciter via différents canaux. Parce qu'on est donc il peut nous appeler, il peut nous envoyer un mail, donc ça, on va dire que c'est de façon classique. S'il nous appelle, mais il va tomber sur Claire, qui accessoirement est très charmante et va l'accueillir et va l'orienter suivant ses demandes, soit sur des conseillers ou sur notre service suivant le besoin. Pour caler un rendez-vous, on essaye d'être très réactif. On ne va pas caler un rendez-vous à 15 jours ou 3 semaines. Hein, en principe, un jeune qui nous sollicite directement, on est en capacité sous 2-3 jours de pouvoir le recevoir. Donc on essaie d'avoir une bonne réactivité par rapport à ça. Mais après, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Voilà, donc on peut nous solliciter via ces différents réseaux. On essaye d'être là où sont les jeunes. Voilà.
Et une fois qu'ils arrivent, justement, c'est définir leurs besoins, c'est vraiment les prendre en charge, les écouter. Un rendez-vous, ça prend combien de temps à peu près
Alors effectivement, il va y avoir deux types de rendez-vous. Il y a le premier rendez-vous, où ça va être un petit peu de la découverte et de la prise de contact. Donc là, le jeune qui rentre en contact avec nous, il va être orienté sur le conseiller ou la conseillère de son secteur géographique pour que la relation puisse être la plus fluide possible. Et en fonction de lors de ce premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'on appelle un peu de premier accueil, le conseiller ou la conseillère va définir un petit peu quels sont les besoins, quelles sont les questions, et après ça va orienter les futurs rendez-vous. On est sur des rendez-vous qui sont aux alentours de 3/4 d'heure à peu près, mais bon, ça peut être plus rapide, ça peut être plus long, ça dépend vraiment des problématiques qu'il peut y avoir, problématiques ou questionnements. C'est pas, voilà, ça peut être qu'un simple questionnement, ça peut être des rendez-vous très courts parce qu'il y a une demande particulière, on apporte la réponse, bam, voilà, c'est réglé. Comme il peut y avoir besoin d'un accompagnement plus important, tout dépend, on s'adapte.
Peut-être commencer par parler des parcours pro.
Oui, donc vous incitez les jeunes, une fois leur parcours pro défini, à se former. Mmh. Et du coup, vous avez plusieurs outils, j'imagine. Vous pouvez nous en dire un peu
oui,
plus.
Oui, après, donc on va, en fonction de ce que du projet du jeune, donc ça peut être un projet... La finalité, c'est un projet professionnel, puisqu'on a des conseillers en insertion professionnelle. Donc l'emploi, c'est ce qui vient à la fin, c'est ce qui vient au bout. Après, le parcours pour y arriver, il est plus ou moins long. Il peut être très rapide, on peut avoir un jeune diplômé ou à qui on a juste besoin de donner un petit coup de pouce pour une lettre de motivation, préparer un entretien, ça peut être juste ça. Comme on peut avoir des parcours plus difficiles où il va falloir peut-être, avant de penser à l'emploi, peut-être trouver à se loger correctement, peut-être trouver des aides financières pour passer son permis, voilà, et des parcours qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, après voilà, ça dépend. Et fonction de la durée de ce parcours et du contenu de ce parcours-là, il y a des réponses que nous, on peut apporter, que nos conseillers, qui sont des conseillers généralistes, ils vont pouvoir aider sur la santé, sur le logement, sur plein de choses, sur l'aspect de gestion du budget. Mais pour des problématiques spécifiques, on travaille en partenariat avec tout un tas d'acteurs locaux. Donc après, voilà, s'il peut y avoir des problèmes d'addiction, ben, on va travailler avec des associations spécialisées dans ce domaine-là. Si, voilà, après, on va se rapprocher des associations dont c'est les spécificités sur certains domaines précis. Mmh. Et c'est un petit peu un avantage qu'on a en Lozère, c'est qu'on arrive à tisser un partenariat quand même assez, assez important, notamment avec les formations. Je vois par exemple avec le CFA qui est à Mende, où le jeune, si dans son projet on a des questions et qu'il peut y avoir une orientation, fait une proposition d'orientation, parce que c'est bien le jeune qui choisit quand même ce qu'il veut faire. Hein. Nous, on est là pour l'aider dans son projet, mais on ne va pas lui imposer quoi que ce soit. Hein. Mais on va pouvoir, vu le partenariat qu'on a avec le CFA, on va pouvoir lui proposer d'aller s'y essayer une journée, de tester les formations, ça lui plaît, ça lui plaît pas, ça confirme ou ça infirme son projet. Voilà, donc ce genre de partenariat est très important. On a un dispositif qui s'appelle les PMSMP, les périodes de mise en situation au milieu professionnel, qui nous permettent de les mettre en contact avec des entreprises pour aller passer une journée, deux jours, une semaine, 15 jours, pour aider à orienter. Ce partenariat en Lozère est très fort et très concret, et puis on arrive à être très réactif. C'est-à-dire qu'on se connaît, on se côtoie entre partenaires, on se côtoie dans les réunions, les réunions qui peuvent être organisées par la région, par l'État, par le département. Donc on se voit régulièrement, on réajuste, on parle de cas, on a un fonctionnement qui peut-être... On a l'inconvénient à Lozère de la mobilité, peu de transports en commun, voilà, le tramway, y a pas trop. Voilà. par contre, on a l'avantage qu'on se connaît bien et qu'on prend notre téléphone, on s'appelle, on trouve des solutions.
Ah, c'est sûr que c'est peut-être plus simple qu'en région parisienne. Chaque territoire a sa spécificité.
François. Tout à fait.
Alors, justement, ces jeunes, à l'issue de leur accompagnement et à l'issue d'un parcours de formation, la difficulté, ça va être justement de pouvoir trouver un emploi. Donc, moi, la question porte sur en fait, les principaux freins qui font que les jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Donc là, vous avez évoqué les problèmes, par exemple, de mobilité, de logement, du côté des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Et du côté des employeurs, on a souvent aussi tendance à imaginer que pour l'employeur, ça lui coûte un petit peu cher de prendre un jeune, alors qu'il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Comment vous voyez un peu les choses, vous ?
Alors, en Lozère, on a une situation un peu particulière. On a un taux de chômage qui est bas, qui est très bas, hein, puisqu'il est à moins de 5% en Lozère, quand il est à Perpignan, aux alentours des 15%. Donc, en Occitanie, on fait quand même le grand écart. On a beaucoup d'offres d'emploi en Lozère non pourvues. Néanmoins, on a des jeunes et des moins jeunes. Là, on parle des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes qui sont en recherche d'emploi. On s'aperçoit qu'on n'arrive pas toujours à faire caler l'offre et la demande. Donc pour l'emploi, nous, on essaye justement de faire se rencontrer les deux. Donc on essaye de préparer nos jeunes au mieux aux spécificités des employeurs, via ce que je disais, les périodes de mise en situation milieu professionnel, notamment des aides au CV, des aides aux lettres de motivation, des simulations d'entretien d'embauche. On travaille avec un partenaire qui est important pour nous, qui est Défi Intérim, où on a une personne là, qui vient chez nous faire des simulations d'entretien. Donc on est dans du concret, avec des vraies personnes. C'est pas juste d'expliquer comme ça comment ça marche. Et après, de l'autre côté, on a des employeurs qui sont, eux, en attente. Ils ont des postes à pourvoir. Ils ne trouvent pas forcément les profils qu'ils souhaitent. C'est une problématique. Aujourd'hui, en Lozère, on a des secteurs d'activité comme l'aide à la personne, comme tout ce qui est lié au transport, au bâtiment, où il y a beaucoup de postes à pourvoir. Il y a peu de candidats en face. On s'aperçoit qu'on a peut-être une génération qui n'est pas très intéressée par certains métiers. Je pense que c'est pas la faute des jeunes ou la faute des employeurs. Il faut que les jeunes entendent certaines choses, que nous, on les aide à se préparer au mieux. Il faut que certains employeurs entendent aussi certaines choses, que peut-être que c'est pas évident de trouver pile le profil qui convient, qui est comme ça, là, qui est opérationnel en deux jours. Non, ça se passe peut-être pas comme ça. Il faut peut-être accepter de recruter sur un potentiel et sur quelqu'un qu'il va falloir peut-être former de A à Z. Il faut l'accepter. À la mission locale, on a, parce qu'on se fait notre autocritique aussi, je pense qu'on était très bon on est toujours très bon dans l'accompagnement social. Il nous manquait un petit volet entreprise. Donc là aujourd'hui, on a Delphine Brécieux qui est une conseillère qui a une référence à entreprise. Et on est en train de créer un maillage d'entreprises, d'artisans, enfin de tout type d'entreprises, pour essayer de, via un logo et via un dispositif qui est des entreprises partenaires à la mission locale, pour essayer de créer une dynamique, essayer de rencontrer des employeurs, pour essayer de mettre un petit peu tout le monde en face. Mais c'est pas une chose aisée, avec toujours aussi ce problème de mobilité qui est quand même un problème récurrent. En Lozère, c'est-à-dire qu'on peut avoir une offre d'emploi à Saint-Chély et le jeune en face qui est à Sainte-Croix-Vallée-Française. C'est pas évident. C'est plus simple quand on est à Montpellier qu'on prend le tram pour aller. Donc il faut que les jeunes soient mobiles. Il faut avoir le permis, il faut avoir une voiture, il faut avoir des sous pour mettre du carburant dans la voiture. Donc on a un dispositif comme ça qui s'appelle la garantie jeune, on parlera peut-être plus tard, mais qui nous permet d'avoir un accompagnement intensif des jeunes. C'est un contrat, c'est-à-dire que le jeune signe un contrat, s'engage pour être dans une démarche proactive, une démarche intensive. En échange, il a une allocation qui lui permet de 497 €, qui lui permet de lever certains freins justement financiers pour pouvoir se payer le permis, pour pouvoir s'habiller correctement, se nourrir, assumer les frais du quotidien, et rendre cette mobilité plus facile. Parce que on s'aperçoit aujourd'hui que pour trouver un métier qui nous convient ou une formation, la mobilité, c'est vraiment un sujet.
En tout cas, à vous entendre, en Lozère, les entreprises n'ont pas. L'argument. Disant que ça coûte trop cher un emploi, il n'est pas vraiment valable aujourd'hui.
Non,
c'est
non,
plutôt un problème
non,
de, non, d'adaptation aujourd'hui, de compétences.
Aujourd'hui les entreprises qu'on rencontre, les employeurs qu'on rencontre, l'aspect financier, c'est pas ce qui arrive en premier. L'employeur souhaite avoir la bonne personne, souhaite pouvoir investir sur du moyen long terme. Éviter d'avoir quelqu'un qui est là un an et puis qui s'en va, c'est ça. Plus que réellement l'aspect financier. Même si après, sur l'aspect financier, on peut aider aussi et on peut accompagner parce que l'État met à disposition des contrats aidés. Donc il y a les parcours emploi compétences, il y a les CIE, on a un tas de dispositifs de l'État qui sont mis à disposition, et nous on a une conseillère, Lucie Rambier, là, qui est spécialisée à la mission locale pour ça, qui peut aider les employeurs dans ces démarches-là, pour pouvoir mettre le pied à l'étrier à un jeune avec des contrats aidés qui permettent à l'employeur d'avoir des aides financières pour pouvoir franchir le pas et commencer à recruter. Donc il y a des dispositifs existants. Ouais.
Cathy.
Oui, je voulais évoquer avec vous la question du parrainage.
Oui.
Parce qu'on sait que le parrainage existe au niveau national. Donc, je voulais vous demander, est-ce qu'il existe aussi en Lozère? Et puis, comment se met-il en place?
Oui. Hein,
comment est-ce que... Et aussi, comment est-ce qu'on devient parrain?
Oui. Alors, le parrainage existe en Lozère. On a... Donc, bien sûr qu'à la mission locale, on déploie ce dispositif-là. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait à peu près 20 parrainages par an. L'idée du parrainage, c'est quoi? On a nos jeunes qu'on accompagne via un accompagnement classique des conseillers ou via un dispositif spécifique qui est la garantie jeune. On a un discours de conseiller en insertion professionnelle via le jeune qui va l'aider à faire son CV, à faire sa lettre, à adopter une posture professionnelle, à l'orienter, à lui proposer des orientations. Voilà. Néanmoins, le conseiller, il est conseiller. Il n'est pas employeur potentiel. Alors même si on est en lien avec des employeurs et qu'on essaye d'être au plus près du terrain et comment dire, au plus près des demandes du terrain, l'idée d'un parrain, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans le milieu professionnel, soit en activité, soit retraité, pas gênant, qui va donner un peu de son temps bénévolement pour aller coacher un petit peu le jeune avec qui on va le mettre en relation. Donc le parrainage, c'est trois parties. Hein. C'est le parrain ou la marraine, le jeune et le conseiller de la mission locale. Et le conseiller de la mission locale essaie d'organiser ça suivant le profil de jeune qu'il a, il va, suivant la situation géographique aussi, hein, s'il est à Saint-Chély, le jeune, on ne va pas lui proposer un parrain qui est à Florac. Donc on essaie d'avoir un maillage de parrains et de marraines assez homogène sur le territoire. Et le conseiller va mettre en relation, va aller voir le parrain en lui disant « voilà, j'ai un jeune qui aimerait travailler par exemple dans la coiffure et il se trouve qu'on a un parrain ou une marraine qui est coiffeur, ben on va lui proposer peut-être de les mettre en relation. Le parrain ne remplace pas bénévolement le conseiller de la mission locale mais va apporter un éclairage un petit peu différent, va pouvoir quelquefois dire des choses différentes sur la posture, sur la façon de se présenter, sur la façon de Même si le CV, la candidature, elle est propre, peut-être de façon plus opérationnelle, peut-être faire quelques petites modifications, faire bénéficier aussi de son réseau. Donc ça, c'est important. Beaucoup de choses se font quand on a un réseau d'entrepreneurs, notamment. Voilà, c'est sur une période donnée, avec des points qui sont faits régulièrement. C'est vraiment le parrain ou la marraine, c'est un élément extérieur qui va donner son avis sans concession, très clair, hein, sur le jeune, sur son orientation, sur ce qu'il veut faire. C'est un appui. Ouais, ça remplace pas. Ça ne remplace certainement pas le boulot que fait le conseil de la mission locale, mais c'est un appui supplémentaire, un appui du terrain. Avec vraiment, souvent quand on a des gens qui sont retraités, c'est des anciens DRH, c'est des gens qui étaient dans des grandes entreprises, voilà, qui ont quand même une connaissance des processus de recrutement, voilà, qui connaissent du monde, voilà. Et on essaye de faire bénéficier de cette expérience, faire bénéficier aux jeunes de cette expérience.
Mm-hmm. C'est un lien différent, quoi.
Voilà. Et peut-être aujourd'hui, enfin, c'est encore tout récent comme dispositif.
Non, ça fait quelques années qu'on est.
Avec le recul, est-ce que vous voyez un effet justement bénéfique?
Oui. Oui, les conseillers d'abord voient que ça apporte justement un éclairage un petit peu différent, un appui de l'extérieur. Quelquefois, ils peuvent dire quelque chose, et là, c'est appuyé par le parrain. On a des jeunes sur qui, voilà, on a pu par relation, on a pu trouver des solutions. C'est de toute façon des expériences positives. Après, c'est pas non plus une baguette magique. C'est pas parce qu'on a un parrain que le parrain, du jour au lendemain, il va vous trouver un boulot. C'est pas comme ça que ça marche. Ça serait trop simple. Mais voilà, on sent que ça apporte quelque chose. Quelquefois, ça confirme un projet. Quelquefois, ça l'infirme aussi. C'est pas gênant. Mais ça permet d'avancer. Et on est sur une vingtaine de parrainages à peu près par an, voilà, de façon régulière, là, depuis 2-3 ans.
D'accord.
Et pour devenir parrain ou marraine, voilà,
c'est la question
du début.
Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou bien est-ce que ce sont des personnes qui proposent bénévolement?
On a des parrains, des marraines qui connaissent ce dispositif, qui se proposent, qu'on peut rencontrer comme ça lors de réunions et qui d'emblée se proposent. Après, c'est nous aussi qui allons les chercher, oui. En fonction des gens qu'on peut connaître, des gens qu'on peut rencontrer. On se dit, tiens, cette personne-là, il y a une certaine appétence à ce... à ça, donc on le propose. On a des parrains qui quelquefois voilà qui fluctuent. Aujourd'hui on a un peu moins d'une trentaine de parrains sur le département. On essaye d'en avoir sur tout le territoire pour qu'un jeune de Florac puisse en bénéficier au même titre qu'un jeune de Mende. Ça c'est très important pour nous. Mais voilà, aujourd'hui on a un stock entre guillemets de parrains qui est correct. Qui n'est pas encore tout à fait homogène sur le territoire, mais ça, on y travaille. Mais après, on, bien sûr qu'on essaye tout le temps d'avoir de nouveaux parrains, parce qu'on a des parrains actuels qui peuvent nous dire que ben, cette année, pour raisons professionnelles, ils ne peuvent pas trop, ils n'ont pas trop le temps. L'année d'après, ils peuvent reprendre. Voilà, on essaye de... Puis c'est bien de changer aussi. Donc voilà, c'est un beau dispositif. Il ne faut pas trop en attendre non plus, mais c'est un appui. Voilà, c'est une petite chose en plus, voilà, qui est tout à fait pertinente et qui permet d'avancer et qui permet aux jeunes de se confronter vraiment avec avec un vrai contexte et avec voilà, sur le terrain comment ça se passe vraiment.
Au-delà de l'emploi, vous avez aussi une mission en ce qui concerne l'aide à la santé, l'hébergement pour les jeunes. Ouais. Mais il me semble que vous menez également d'autres actions dans d'autres domaines.
Alors,
est-ce qu'au niveau, par exemple, de la citoyenneté, de la culture, voilà, si vous pouviez nous en dire plus.
On est sur, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur cet accompagnement global. Donc, on est une porte d'entrée, on souhaite être la porte d'entrée des jeunes de 16 à 25 ans, quelles que soient leurs problématiques ou leurs questionnements. Donc, vous l'avez dit, ça peut être le logement, hein, on va être en relation avec le SIAO, on va être en relation avec le 115, éventuellement, s'il y a besoin. Pour la santé, on va pouvoir être en relation avec d'autres partenaires ou tout simplement expliquer comment on fait pour souscrire une complémentaire santé, voilà, parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Et puis via le dispositif Garantie Jeune. Dispositif Garantie Jeune, en deux mots, donc on est sur un accompagnement renforcé, on est sur un contrat où le jeune s'engage en échange d'une allocation, il va vraiment s'engager de façon proactive. Comment ça se passe? On est sur un dispositif qui est en constante évolution. Là, on a les pouvoirs publics qui veulent aller vers une garantie jeune universelle. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais voilà, on est sur un dispositif qui évolue. Aujourd'hui, on est sur un dispositif qui est prévu pour fonctionner sur 12 mois, avec un accompagnement collectif en début de cursus. Donc on est sur deux semaines de collectif. On essaie de faire un collectif sur Mende, un collectif délocalisé. Quand je dis délocalisé, c'est les quatre bassins de vie autour de Mende, hein, qui sont Florac, Langogne, Saint-Chély, Marvejols, voilà, où on a des conseillers sur ces secteurs-là. Donc on fait un collectif sur... on lance une session sur Mende, une session délocalisée, une session sur Mende, une session délocalisée. Voilà, on essaye d'être sur... L'objectif, c'est qu'on soit sur 15-16 sessions à l'année. Ça attaque par deux semaines de collectif où là on a entre 5, 7, 8, 10, 12 jeunes qui se retrouvent, donc d'âges différents, de parcours différents. Ils apprennent à se connaître, il y a une dynamique de groupe qui s'installe. Et on a un parcours collectif. Suite à ce parcours collectif, on va avoir, le jeune s'engage à faire deux entretiens individuels par mois pour qu'on voit où est-ce qu'il en est dans ses recherches, de quoi il peut avoir besoin. Deux ateliers aussi collectifs par mois, donc c'est quand même assez intensif. Il y a quand même une feuille de route qui est bien établie, mais il y a une allocation qui est versée pour ça aussi. Voilà. Et durant ce parcours-là, à la fois dans le collectif ou à la fois dans les ateliers qui peuvent être faits après, on va avoir différentes thématiques qui sont la citoyenneté, qui peut être l'accès au numérique, qui peut être sur l'identité numérique aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. On n'est pas forcément anonyme sur Internet. Voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, et là, bon, le sujet est assez vaste. On a des partenaires. Il y a des choses qu'on fait nous, mais on a des partenaires. On a la Banque de France, avec qui on a re-signé un partenariat il y a peu. Donc là, c'est des gens de la Banque de France qui viennent expliquer aux jeunes comment la Banque de France, qu'est-ce que c'est, comment on gère un budget, un compte bancaire, comment ça marche. Voilà. Donc comment on l'ouvre. comment on le ferme, voilà, comment on change de banque,
comment on
voilà,
gère les découvertes,
voilà, comment on peut gérer. Donc ça, c'est des questions quand on est jeune, qu'on a 16 ans, 17 ans, voilà, c'est pas forcément naturel d'avoir ces connaissances-là. Par rapport à la santé, on a des partenaires qui vont intervenir, donc vraiment, via cet accompagnement global, on essaye de donner toutes les cartes en main, suivant les besoins qui peuvent y avoir. Voilà, on essaye de les préparer à l'emploi, mais j'ai tendance à dire de les préparer aussi un peu à la vie tout court aussi, pas qu'à l'emploi en fait. Et le tout de façon la plus pertinente possible avec des vrais bons partenaires qui savent de quoi ils parlent aussi. Donc ça c'est important, ça apporte de la crédibilité. Quand c'est la Banque de France qui vient vous expliquer comment ouvrir un compte bancaire, bon ben voilà, ça... Voilà. Oui, normalement ils savent de quoi ils parlent.
Alors justement, toutes ces missions, c'est vaste, c'est énorme. De quel budget vous disposez et d'où viennent les fonds d'ailleurs? Et évidemment, la question peut paraître bateau, mais est-ce que les moyens humains et matériels, entre guillemets, sont suffisants pour vous en Lozère?
Alors, les partenaires financiers, ils sont multiples. Ils sont multiples. On va commencer par les principaux, l'État. Voilà. L'État aujourd'hui finance toutes les missions locales de France de façon assez conséquente. Et il faut le dire, de façon plus conséquente cette année. Voilà, il y a une volonté des pouvoirs publics actuellement d'investir dans les missions locales, et notamment sur le dispositif garantie jeune. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics croient vraiment. Donc là, on a quand même un financement qui est très important. C'est à peu près un tiers de notre budget qui est apporté par l'État. Après, on a la région qui nous finance, parce qu'on est des prescripteurs. La région a en charge les formations, notamment. On peut parler de la formation Déclic, une formation qui n'existait pas en Lozère et puis qui a été déployée là, sur ce début d'année, qui est une très belle formation. Où l'idée c'est de faire un peu un point de situation et de on est sur de la préparation à l'orientation pour savoir un petit peu voilà, dans quelle direction on peut s'orienter. Donc c'est vraiment un socle important, donc c'est un beau dispositif que ce dispositif Déclic. Là je vais en citer un parmi tant d'autres, mais voilà, donc on oriente les jeunes sur ces dispositifs là, donc on a un financement de la région qui est important, un financement du département aussi qui est très important. On a le département de la Lozère qui nous soutient vraiment. Si on s'appelle Mission Locale Lozère, c'est pas pour rien. Donc nous on a cette dimension départementale. Donc au-delà du soutien financier qui est important, il faut savoir que le département de Lozère nous met à disposition de nos locaux quand même sur Mende, donc c'est quand même pas rien, parce que là on a déménagé d'ailleurs l'an dernier, c'était au mois d'août dernier. On est passé au 14 boulevard Henri Bourion, je profite pour glisser l'adresse.
Et que vous avez inauguré il n'y a pas très longtemps.
Et qu'on a inauguré, c'était en octobre, je crois, ouais. Oui, c'était en octobre. Voilà, donc on dispose de locaux tout neufs, aménagés, à mon avis, avec goût, avec un espace d'accueil qui est plutôt sympathique, qui permet aux salariés de la mission locale de travailler quand même dans un certain confort. Et d'accueillir d'une bonne manière notre public. C'était important pour nous de rester en ville, de rester en centre-ville. Pareil pour ces problématiques de mobilité aussi. On a quand même beaucoup de jeunes sur Mende, donc ça leur permet de venir à pied chez nous. Donc ça a quand même un intérêt. Ça nous apporte une visibilité qu'on n'avait pas avant. On a énormément travaillé d'ailleurs sur notre communication et sur l'image qu'on peut renvoyer, les différents supports de communication. Mais voilà, ces locaux-là, mis à disposition, j'insiste, par le département, avec des travaux qui ont été financés par le département, voilà, nous permettent aujourd'hui de pouvoir assumer nos missions de la meilleure des façons, avec le PAEJ aussi, on en parlera après, mais voilà, qui est dans ces locaux. Donc ça nous apporte quand même un certain confort de travail vraiment intéressant. On a les communes, les communautés de communes. Voilà, qui nous financent, hein, puisqu'on est présent sur, là j'ai parlé de Mende, mais on est présent sur 14 lieux de permanence, donc 13 en dehors de Mende. Donc on est présent sur les territoires, donc ça c'est important. Et donc les communautés de communes nous financent, puisque il faut qu'on aille sur ces lieux de permanence. Alors souvent c'est dans des MSAP, des maisons de services au public, maintenant maisons de France Service. Donc souvent c'est dans des locaux comme ça qui sont mis gracieusement à notre disposition. Mais il faut y aller, il faut avoir un salarié qui va être présent une fois ou deux fois par semaine sur ces lieux de permanence, à la fois pour recevoir le public sur flux, sans rendez-vous, et à la fois pour assumer des rendez-vous aussi. On en parlera peut-être après, mais peut-être demain aussi pour pouvoir se déplacer au domicile aussi. Ça, c'est des pistes qu'on a. Donc voilà, cette présence au cœur des territoires fait que les communautés de communes et les communes sont forcément intéressées par ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on essaye de leur rendre compte aussi de ce qu'on fait, d'échanger. On échange régulièrement avec les maires pour discuter de ce qui se passe sur leur territoire, parce que ça les intéresse quand même. Puis nous, ça nous intéresse d'avoir leur retour, voir s'il faut réajuster des choses ou pas. Donc on a des sources de financement qui sont multiples. Et puis après, là, on a des financements pérennes, comme ça, des subventions de fonctionnement. Et après, on répond à différents appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt, c'est le nouveau nom. On est quelquefois accepté, quelquefois pas, pour mettre en place des actions spécifiques via des financements spécifiques. Voilà.
Et alors justement, vous parliez du PAEJ.
Oui.
Qu'est-ce donc que le PAEJ ?
Alors le PAEJ, point d'accueil écoute jeune. Point d'accueil écoute jeune, alors il faut savoir que c'est une spécificité un petit peu en Lozère, dans un désir de mutualiser les moyens, c'est la mission locale Lozère qui porte le PAEJ de la Lozère. Voilà, puisqu'on est toujours sur une dimension départementale. Il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Souvent, les PAEJ sont des associations à part dans notre département. Pour mutualiser un petit peu les moyens, pour être plus efficace, puis pour une certaine complémentarité, le PAEJ fait partie intégrante de la mission locale Lozère. Les salariés du PAEJ sont des salariés de la mission locale Lozère. Un PAEJ, qu'est-ce que c'est ? Donc là, on est sur un public de 11 à 25 ans. On n'est pas du tout dans l'accompagnement vers l'emploi, on est dans l'écoute et le soutien des jeunes de 11 à 25 ans. Alors on va être plus sur un public ado, on va faire des interventions dans des collèges, dans des lycées. Et là on a une équipe de 4 personnes, on a un cadre coordinateur qui est éducateur spécialisé, on a 3 psychologues, où là on est sur de l'écoute et du soutien des problématiques que peuvent rencontrer les jeunes ados. Ils peuvent venir avec leurs parents ou sans leurs parents, c'est anonyme, c'est complètement libre d'accès. On vient pas forcément une fois, deux fois et puis après non, on vient comme autant de fois qu'on veut, quand on veut. Là on a un partenariat étroit, on en parlait tout à l'heure des partenariats, on a un partenariat étroit avec le CHFT, le centre hospitalier François Tosquel, qui avait un dispositif qui s'appelait Écoutado. Peut-être ça vous parle, Écoutado. Donc Écoutado, on était un petit peu sur les mêmes missions. On a décidé sur Mende et sur le sud de Lozère de mutualiser avec le PAEJ. Donc Mende et le sud de Lozère, Écoutado n'existe plus. On a le PAEJ, on travaille ensemble et ça nous permet sur Mende, dans nos locaux, au 14 boulevard Henri Bourion. Donc on a deux entrées, une entrée mission locale, une entrée PAEJ, où là on est ouvert du lundi au vendredi tous les après-midi. Tous les après-midi, de 13h30 à 17h, la porte elle est ouverte. Il y a forcément quelqu'un qui reçoit le jeune ou le parent de jeune. C'est parent de jeune ou jeune parent. Ouais. Voilà, parce que je vais vous en parler, mais on a un nouveau dispositif aussi qu'on a démarré il y a peu. Et là on est dans l'écoute et le soutien inconditionnel de façon anonyme. C'est quelque chose qui marche bien. Avec une équipe au top, où on essaye pareil d'être présent sur Mende, mais aussi sur le sud Lozère. Sur le nord Lozère, on est en train de développer, on est en train de, pareil avec le CHFT, on est en train de mettre des choses en place. Donc là, ça va être opérationnel en septembre. Et vous dire que là, ce PAEJ, on a un financement de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui normalement finance les MDA, les maisons des adolescents. En Lozère, on n'a pas de maison des adolescents, on n'en aura pas à court terme. Il nous a été demandé au sein de notre PAEJ d'effectuer les missions d'une maison des adolescents. Il y a des choses qu'on faisait déjà, donc bon, ça tombe bien. Et des choses qu'on fait en plus, et notamment ce qu'on fait en plus, qu'on ne faisait pas, c'est le soutien à la parentalité. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, sur commande de l'ARS, on a décidé de déployer ce dispositif-là. Et là, on a une psychologue qui est à mi-temps, qui est dédiée à ce dispositif. Et là, on est sur de l'accueil de jeunes parents, mais aussi de parents de jeunes. Donc voilà, sur l'accueil de parents. Donc par rapport à toutes les problématiques qui peuvent être liées à la parentalité. Aujourd'hui, on est sur de l'entretien plutôt individuel. Dans un proche avenir, en travaillant en partenariat avec la zone notamment, on va développer des ateliers plus collectifs et faire des choses pareilles sur les territoires, en lien avec des foyers ruraux. Voilà, on va essayer on a plein d'idées à ce niveau-là. Il y a une demande aussi des territoires à ce niveau-là. Donc voilà, on est en plein déploiement et en plein développement de ce dispositif.
François ?
Donc vous nous avez parlé de plein de projets. Donc il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez oublié de parler de projets ? Y a-t-il d'autres ?
Oui, après il y a deux autres choses. C'est que la mission locale Lozère est aussi une antenne du Crous Montpellier-Occitanie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est actif depuis septembre 2019. Le Crous Montpellier-Occitanie souhaitait s'investir dans les départements ruraux. C'est vrai qu'ils sont présents dans les grandes villes via de la restauration, via de l'hébergement, mais aussi, on a tendance à penser que le Crous c'est que de la restauration, de l'hébergement, mais c'est aussi des conseillers qui aident à monter un dossier de bourse, qui aident à gérer ces bourses. Donc il y a quand même un gros aspect administratif qui est bien présent. Et donc du coup, le Crous Montpellier-Occitanie avait fait une demande au conseil départemental de voir comment est-ce qu'il pouvait s'installer en Lozère. Le conseil départemental, on s'adresse quand même aux jeunes étudiants, on a une mission locale Lozère, peut-être qu'il y avait une complémentarité à trouver. Et bien du coup, le conseil départemental est venu vers nous a mis en relation avec le Crous, ça a matché tout de suite, on a construit un budget, on a recruté, on a installé, on a... voilà. Et là, depuis septembre 2019, on a une assistante sociale à mi-temps et une psychologue à mi-temps qui sont sur ce dispositif. Donc on est sur de la gestion administrative via l'assistante sociale, gestion administrative, gestion sociale. Donc ça permet de traiter vraiment sur place et de pouvoir recevoir les jeunes étudiants directement. Et puis après, on a notre psychologue qui va être plus sur du soutien. Donc ça, c'est quelque chose dont on a eu malheureusement besoin là ces derniers temps, parce que ça n'a pas été simple quand même pour les jeunes et notamment pour les étudiants. Complété par un service civique aussi, qui a en charge la dynamisation de la vie étudiante, donc qui est très présente sur les réseaux sociaux, style Discord, voilà, des choses spécifiques. Étudiants et en tout cas jeunes dans ces tranches d'âge là. Donc c'est un dispositif qui fonctionne, qu'on doit compléter là, parce que du coup le poste d'assistante sociale ou d'assistante sociale il est à pourvoir. Mais c'est un dispositif qui fonctionne bien et ça répond à un réel besoin. Et enfin, on a un autre dispositif qui est le tiers-lieu solidaire. Qui est le solidaire de la ville de Mende, mais qui a aussi une vocation départementale. Alors un tiers-lieu solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où on met à disposition gratuitement des ressources, notamment des ressources numériques, des ressources audio, des ressources vidéo, des compétences aussi. Donc là, sur Mende, il est basé à l'Antirouille. Donc c'est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Orange, la mairie de Mende, et la mission locale Lozère. C'est-à-dire que la Fondation Orange a apporté l'apport financier, donc a permis de financer l'achat d'équipements. La mairie de Mende héberge le tiers-lieu à l'Antirouille, puisqu'on dispose de locaux vraiment, vraiment sympathiques. Et je remercie la mairie de Mende d'ailleurs, parce que c'est vraiment ces locaux qui sont mis à disposition gracieusement. Et nous, on en a la gestion, c'est-à-dire que pour notre public, on va animer, c'est-à-dire qu'on a Franck Bateau qui est chargé de projet à la mission locale sur le tiers-lieu. Il va animer des ateliers à destination de nos jeunes sur l'identité numérique, sur l'accès au numérique, pour éviter justement la fracture numérique, parce qu'on s'aperçoit que nos jeunes sont très téléphone portable, mais avec un ordi, c'est déjà quelquefois plus compliqué. Donc il y a tout un tas de choses à travailler à ce niveau-là. Et puis après, on délègue à d'autres structures, style l'association La Récup, sur Mende, où Franck a formé quelques bénévoles pour utiliser le matériel. Il y a une brodeuse numérique, il y a des imprimantes 3D pour réparer des choses, pour concevoir avec la brodeuse, concevoir des sacs, enfin voilà. Donc là, c'est pas forcément notre public, mais du coup, on met à disposition et on invite les associations d'ailleurs qui pourraient en avoir besoin à investir ce lieu. On leur met un peu le pied à l'étrier, on est là en accompagnement un peu technique, mais après voilà, ils peuvent bénéficier de tout ce matériel qui est du matériel quand même de haut niveau, hein, parce qu'on a du matériel audio, vidéo, des imprimantes 3D, des scanners 3D, des ordi portables, où on a investi là dans des lunettes de réalité virtuelle pour la découverte des métiers. On s'est aperçu que pareil pour faire face aux problèmes de mobilité aujourd'hui en Lozère, quand un jeune est intéressé par un métier, qui ce métier se fait pas forcément près de chez lui, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas, je sais pas. Donc on a 5 casques de réalité virtuelle et ça permet de découvrir des métiers. Comme ça fait une première approche, ça remplace pas tout, hein. Ça remplace pas une visite en entreprise où on voit des vrais gens. Mais par contre, ça peut donner une idée, ça peut confirmer ou pas une idée, une envie. Donc ça, c'est du matériel qui est mobile aussi, c'est-à-dire que ça, on va pouvoir le déployer aussi sur l'ensemble du département. Voilà, on essaye de pouvoir proposer des choses. On n'est pas que une machine à faire des CV ou à faire des lettres de motivation, quoi. On propose bien plus. Et une dernière chose aussi, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec la Maison de l'Europe à Nîmes. Et il y a quelque chose sur lequel moi je crois beaucoup, et on croit beaucoup, c'est la mobilité internationale. On pense que c'est important pour nos jeunes de pouvoir bénéficier de voyages à l'étranger. Donc là, on a envoyé 4 jeunes filles à Brescia, en Italie. Elles font un stage professionnel d'un mois.
Cette année.
Là. Ouais, elles sont parties le 11 juin.
Fallait le faire.
C'est ça. On peut en parler. C'était quelque chose qui devait se faire en 2020. Pour les raisons qu'on connaît, ça n'a pas pu se faire. On a décidé de reporter plutôt que d'annuler. Il y a eu différents reports, hein. Il a fallu s'accrocher quand même. Là, je suis très très fier. Là, l'équipe a travaillé très fort. Franck Bateau et Sylvia Blanco ont travaillé très fort, et la Maison de l'Europe à Nîmes, Monica, ont travaillé très fort sur ce projet-là pour qu'il ait lieu. Et là, ouais, ça a été un soulagement que de les voir partir. Et là, voilà, apparemment, ça se passe bien, on les revoit dans un mois. Déjà, en temps normal, c'est pas quelque chose de forcément toujours très simple à organiser, mais c'était compliqué.
Et dans ce
mais
cas-là,
voilà, on a pu le faire, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Et là, on est dans une dynamique d'un départ par an. On va essayer de passer sur 2 départs par an. La mobilité européenne va se transformer en mobilité internationale. Alors évidemment, on accompagne financièrement, hein. C'est-à-dire que là, les jeunes qu'on a envoyés, là, ça leur coûte rien, hein. Différent. C'est à nous de monter les projets, et elles bénéficient même un petit peu d'argent de poche pour pouvoir aller visiter sur place, parce que bon, c'est dommage quand même de faire que travailler aussi quand on est dans un pays étranger. Donc c'est des projets qui sont vraiment conçus dans leur ensemble pour préparer au départ. Pour partir avec les trajets, avec l'accueil sur place où on a une structure qui accueille. Là, toutes les 4, elles sont logées au même endroit. Avec d'autres jeunes aussi qui sont issus d'autres pays. Ça fait vraiment des expériences chouettes. On essaye de leur trouver des stages liés avec leur centre d'intérêt. Donc là, ça a été le cas. Elles ont toutes les 4 ont des parcours différents, elles font des stages dans des structures totalement différentes. Ça va être chouette.
Et là, très concrètement, du coup, elles travaillent dans quoi? Quel domaine? C'est un domaine, en fait, elles sont allées là-bas parce qu'il y a un attrait particulier, il y a une spécificité?
Non, en fait, c'est, comment dire, c'est, l'idée, c'est de partir, c'est de vivre une expérience à l'étranger. Ça, c'est la première idée. Et après, à partir, on se dit, bon, allez, tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui plaît aussi, en plus. Et donc, pour certains, c'est vraiment dans le domaine dans lequel elles souhaitent travailler. Pour d'autres, pas forcément, parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver toujours le partenaire idéal. Mais là, on en a une qui veut travailler dans le domaine de la mode. Voilà, on lui a trouvé quelque chose dans ce domaine-là. Donc c'est chouette. Après, pour d'autres, voilà, on a la Maison de l'Europe fait le lien, c'est la Maison de l'Europe qui sur place trouve un prestataire. Le prestataire à son réseau d'entreprises, de structures, qui permet de pouvoir proposer des choses voilà, intéressantes pour les jeunes qui partent. Quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais l'idée de départ, c'est pas forcément je veux travailler dans ce domaine-là et c'est en Italie qu'il y a ce truc-là. Non, c'est là on propose l'Italie, on va reproposer l'Italie l'an prochain parce qu'on a un prestataire là-bas qui est super, donc on va essayer d'optimiser un petit peu les rapports qu'on a. Et c'est partir et puis après on voit si on peut faire quelque chose dans la continuité de son projet ou quelque chose qui soit en tous les cas intéressant.
Oui, donc on le voit, vous êtes quand même bien implanté sur le territoire, vous avez des moyens humains, vous avez de bonnes équipes, de bons partenaires.
Oui,
vous avez des moyens c'est financiers cool, hein, quand
pas
même.
Mal, ouais.
Non, mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez finalement que les jeunes vous connaissent suffisamment et qu'ils se disent naturellement, j'ai 17, 20 ans, je ne sais pas trop quoi faire, je suis un peu paumé, bah tiens, je vais aller à la mission locale.
Non, ouais. La réponse est non. non, on est à notre avis, on n'est pas assez repéré. On a fait du boulot. Je pense que les missions locales ont une connotation vraiment, vraiment d'insertion. Et que je vais à la mission locale que si j'ai un gros problème en fait. Ben non, je peux y aller si j'ai un gros problème, effectivement. Mais je suis diplômé, j'ai un bac plus 3, bac plus 4, je suis sur le marché du travail. Après tout, on m'a jamais trop appris comment faire un CV. D'entretien d'embauche, j'en ai jamais fait. Donc ça se prépare, d'entretien d'embauche, c'est pas quelque chose de neutre. Donc on peut aider ce public-là. Et puis comme on peut avoir un étudiant qui fait ses études et son logement, il ne sait pas trop comment s'y prendre pour trouver son logement, donc on peut l'aider à ce niveau-là. La santé, on en a parlé. On veut sortir de cette connotation vraiment uniquement d'insertion. L'insertion, oui, mais pas que. On veut être et on est une porte d'entrée, la porte d'entrée des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit la problématique, mais le questionnement, y compris des parents aussi, parce qu'on peut avoir des parents qui se questionnent, qui peuvent tout à fait nous appeler, venir nous voir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut qu'on travaille à cette identification. Les nouveaux locaux dont on dispose, c'est un réel plus, hein, voilà, parce que par rapport aux anciens locaux, bon, qui étaient pas mal, mais on n'avait pas une visibilité quand même qui était extraordinaire. Là aujourd'hui, on est sur le boulevard. On a un affichage, on nous voit quand même. Après, on essaye d'être. On a Anaïs Bernard qui fait office aussi de chargée de communication chez nous, qui est très active sur les réseaux, qui a mis en place des choses. On travaille cette visibilité, cette communication. On a un logo qui. Alors, ça, c'était mon prédécesseur qui l'avait mis en place, mais un logo qui est basé sur le logo national, donc on essaie de se raccrocher à la communication nationale aussi. Il faut savoir que les missions locales sont, on a l'Union nationale des missions locales, après on a l'association régionale des missions locales. Donc voilà, il y a toute une hiérarchie un petit peu à ce niveau-là. Donc on essaie de récupérer les choses qui sont faites au niveau de la communication nationale pour avoir une certaine unité dans la com. Donc on y travaille beaucoup, ça porte ses fruits. Mais on n'a jamais terminé. Aujourd'hui, la communication, elle est importante. Et puis, on est sur un public jeune qui a ses canaux de communication, qui a ses habitudes de communication. Il faut qu'on aille vers eux en communiquant de la façon dont ils communiquent. C'est pas eux qui vont s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. Ça, on l'a bien compris.
Et vous avez aussi un service qui s'occupe des jeunes qu'on pourrait appeler les jeunes invisibles, qui donc des jeunes qui sont marginalisés, qui sont en situation précaire, qui connaissent des difficultés, bref. Comment les repérer? Et puis après, est-ce que c'est facile de leur proposer votre aide? Comment ça se passe tout ça?
Alors oui, on a un dispositif qui est porté par une conseillère de la mission locale, qui est Morgane Lacabane. Tout est parti d'un appel à projet proposé par les pouvoirs publics. Et l'idée, c'est de partir d'un constat. Alors là, je vais vous donner les chiffres en Lozère, hein, mais évidemment, il y a des chiffres nationaux beaucoup plus importants. Mais en Lozère, on a 1200 jeunes NEETS. Alors les NEETS, ni en emploi, ni en scolarité, ni en formation.
Donc officiellement qui ne font rien entre 16 et 29 ans. Je dis bien officiellement parce qu'après quand on prend contact, ça peut peut-être avoir changé. Donc c'est 1200 jeunes comme ça, c'est quand même pas neutre sur le département. S'ils sont dans cette position-là, ils sont suivis par personne, on ne les connaît pas. Donc ce n'est pas des jeunes qui vont pousser naturellement à la porte des institutions, ils ne vont pas naturellement nous voir, naturellement toquer à la porte de la mairie de leur village. Voilà, donc quelquefois ils sont chez eux à faire quelquefois pas grand-chose. Et donc l'idée c'est d'aller vers eux. Ils ne vont pas venir vers nous de toute façon. Ils vont venir vers personne. Donc c'est de mettre en place un dispositif d'aller vers. Donc aller vers eux. Et vous avez dit un mot qui est intéressant, pour dans un premier temps les repérer. Et dans un deuxième temps, les remobiliser. C'est deux étapes bien distinctes. Donc le repérage se fait par du bouche à oreille, par un partenariat avec les mairies, hein, puisque c'est quand même les maires qui localement sont le plus au courant de ce qui se passe sur leur territoire, donc on s'appuie énormément sur eux. D'autres associations aussi, hein, Côte Neuf ici, voilà, donc des associations, il y a la Vie Saine, voilà, des associations comme ça avec qui font un super boulot et avec qui on travaille et qui peuvent nous renvoyer des contacts. Après, on propose. C'est-à-dire qu'on imposerait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré, on va essayer de rentrer en contact, de proposer nos services. Et Morgane, elle a carte blanche à ce niveau-là. Elle dispose de son camion. Elle sillonne les routes lausériennes avec, du sud de Lozère, plus particulièrement avec son camion. Là, on a fait un joli camion, mission locale. Et elle va à la rencontre de ces jeunes-là pour les questionner, leur proposer des choses. Et l'idée, ça va être de les remobiliser, par le biais de ce qui les intéresse. Si je prends l'exemple d'une jeune qui, par exemple, fait trop rien de ses journées, c'est pas trop quoi faire de son avenir, mais par contre, elle a une passion, c'est l'équitation. Eh bien, on va peut-être partir de là. Pour l'équitation, ok, ça t'intéresse, est-ce que tu montes à cheval? Ben non, parce que voilà, mais peut-être qu'on peut peut-être essayer de mettre en place des choses pour que tu puisses. Et donc on peut se rapprocher d'un centre équestre, on peut, voilà, d'une asso pour susciter un intérêt. Et peut-être que si tu aimes monter à cheval, peut-être que voilà, un avenir dans cet environnement-là, ça pourrait peut-être t'intéresser. Oui, et voilà, on travaille comme ça pour susciter un intérêt. On imposerait tout part du jeune, de la sensibilité, de ce qu'il veut. Après, certains peuvent nous répondre qu'ils sont très bien comme ils sont et qu'ils ne veulent pas notre aide. Mais à la limite, ils savent que, on laisse la carte, ils savent que, ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas. Ben, et demain, tu sais que, voilà, si au cas où, il y a ce numéro de téléphone, ou cette adresse mail, ou ce Facebook, ou cet Instagram, voilà, tu peux, voilà, il y aura quelqu'un au bout. Et après, voilà. Et donc là, c'est pas une mission facile. C'est une mission très délicate, d'autant plus en milieu rural. Parce qu'autant en milieu urbain, le repérage peut être plus aisé parce qu'il y a des regroupements, parce que voilà, donc c'est plus visible. Aujourd'hui, le jeune qui est dans un petit village et qui ne sort pas de sa chambre parce qu'il joue aux jeux vidéo H24, s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous alerter, qui va nous mettre en contact, jamais on va le voir. On aura Morgane, on l'aura beau passer devant sa maison 15 fois, elle ne le verra pas. Donc on a vraiment besoin de ce... Et votre émission peut servir à ça aussi. On a vraiment besoin de ce relais, de cette mise en contact, pour qu'on propose. Après, voilà, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit.
Le temps passe vite, François d'abord, puis Cathy juste après pour les deux petites dernières questions.
Alors on l'a évoqué en filigrane, mais la crise sanitaire quand même qui dure depuis 2020 a touché de nombreux jeunes. Pour vous, quelles répercussions ça a eu sur l'organisation de votre travail, sur vos missions?
Alors ça a été quelque chose d'assez catastrophique. On a cette crise sanitaire a été très compliqué pour les jeunes. Bon, je ne vous apprends rien, hein, voilà, mais les divers confinements, il faut savoir qu'on a ce public jeune ne regarde pas forcément les infos du 20h. Et donc a quelquefois des bribes d'informations quelquefois des bonnes informations, quelquefois des pas très bonnes. Et beaucoup se sont repliés sur eux-mêmes. Alors je parlerai après du public étudiant, où là c'est encore une problématique spécifique. Mais voilà, on a eu des jeunes qui sortaient plus de chez eux. Ils étaient confinés, mais pour eux, confinés, c'était interdit de sortir. Et on en a qui n'avaient plus rien dans le frigo. Hein, mais j'ai pas le droit de sortir. Si, tu peux sortir. Ben, faut remplir une attestation, tu as le droit d'aller faire tes courses. On en était là. Donc on a eu un rôle important à ce niveau-là, parce que voilà, des jeunes qui n'avaient pas d'informations, voilà, c'était le confinement et je ne sors plus. Fini. Voilà. Non. Donc voilà, ça a été compliqué pour nous parce qu'on s'est retrouvé à travailler en distanciel du jour au lendemain. Mmh. On n'était pas prêts, hein. De toute façon, ça c'est clair, hein, comme beaucoup. Hein. Les visios, on ne savait pas faire. Hein. Donc il a fallu s'équiper, il a fallu apprendre. Les visios avec les jeunes, bah, ça marchait pas super. Donc on s'est. D'un coup, notre porte était fermée, donc on s'est retrouvé avec des jeunes qui ne pouvaient plus venir. Donc dans un premier temps, et là on a eu une mobilisation forte de notre équipe où les conseillers se sont mis à contacter les jeunes qu'on connaissait, ceux qu'on suivait déjà, à les contacter, comment ça va, besoin de quelque chose, voilà, pour maintenir en contact. On n'a pas eu on a eu très peu de nouveaux contacts, mais on a essayé de maintenir au moins le contact qu'on avait. Et donc voilà, la jeune dont que je vous citais un exemple, ben voilà, un contact a permis de. Et ben voilà, l'attestation ça marche comme ça, ben écoute, on va t'en imprimer une quinzaine. Et c'est moi par exemple qui était voilà, lui porter, lui mettre sous la porte, elle a son enveloppe avec ses attestations, et du coup elle a pu aller remplir le frigo. Quoi. Mais voilà, ce qu'on a essayé, on a à peu près contacté. Entre 80, ouais, un peu plus de 90% des jeunes qu'on connaissait. Donc on a pu maintenir un lien. Donc ça a été une bonne chose. Très tôt, on fait partie du service public de l'emploi. Hein. Donc très tôt, on a réouvert. Hein, parce qu'on s'est aperçu que le distanciel avec ce public-là, c'était compliqué. Dès qu'on a pu, on a réouvert. On a une équipe qui s'est fortement mobilisée. Parce qu'il y a eu des moments où on ne savait pas trop où on allait. Hein, donc on s'est très tôt équipé en masque, en gel, enfin voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour appliquer les mesures barrières et pouvoir retrouver notre public et puis pouvoir re-accueillir en présentiel. On a été assez réactifs là-dessus. Dans les meilleures conditions possibles, on a la chance d'avoir des bureaux individuels, donc c'était plus facile à organiser. Mais voilà, très tôt, on a été de nouveau dans le présentiel. Ça n'a pas été cas de toutes les missions locales d'Occitanie. Hein. Là, bon, voilà, c'est quand même une spécificité. Ça a pu se faire parce que nos salariés aussi se sont mobilisés et l'ont fait pour les jeunes. C'est quand même super important. Voilà, donc ça a été une période difficile, très difficile au début. Après, on a appris à la gérer. Je pense qu'on a été présents pour nos jeunes. Après, on peut toujours faire mieux, mais moi, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Après, il y a eu des dégâts, c'est-à-dire que on a été confinés, c'était avril-mai par là, mars-avril-mai. On a retrouvé une activité normale au niveau de la mission locale en octobre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sorti du confinement que tout est redevenu normal tout de suite. Non. Quand des habitudes de repli sur soi sont engagées. Derrière, il faut du temps pour réenclencher. Donc ça a été compliqué. Et il y a eu un travail de remobilisation qui a été fait par l'équipe là, sur quand même de longs mois. Et on a retrouvé une activité normale en septembre-octobre.
Et puis il y a eu aussi la deuxième période de confinement.
Voilà, alors là on était un peu plus près, on n'a pas fermé. Ça a été quand même beaucoup mieux vécu. C'était pas la première fois. Voilà, donc là on a été en capacité de la gérer de façon beaucoup plus simple. Et puis après, il y a le public étudiant hein, donc qui a énormément souffert de ces différents confinements. Il y a des taux d'échec en première année là, qui sont quand même assez importants. On a eu à faire face à une précarité étudiante très marquée. On en a parlé sur le plan national, mais je peux vous confirmer qu'en Lozère, ça a été le cas. Il faut savoir que en Lozère, on a quand même à peu près 1600 étudiants. On en a à peu près 1000 sur mandat, 600 hors mandat. Vous en avez quelques-uns à Florac, hein, c'est un gros, là, juste à côté. Voilà, et on a donc on gère aussi pour le compte du département, on n'en a pas parlé, mais pour le compte du département, on gère des fonds d'aide aux jeunes et des bourses emploi formation. Donc ça, c'est des budgets qui sont alloués par le département, des budgets importants qui sont alloués par le département, et on les a en gestion, et donc les conseillers avec les jeunes qui suivent, ils font des dossiers de demande d'aide financière. Ça peut être, eh bien, je suis embauché pour faire chauffeur, il faut que je passe mon permis, du coup c'est quand même mieux, eh bien, je vais pouvoir, c'est un lien direct avec mon futur emploi, on va pouvoir débloquer des fonds pour pouvoir payer ce permis. Donc voilà, donc ça c'est une politique jeunesse au niveau du département quand même qui est très forte et qui se concrétise par des financements spécifiques. Ce n'est pas le cas partout dans tous les départements, hein. On est une des rares missions locales à gérer ces fonds-là. Donc on les gère pour le compte du département, on a une commission avec le département, qu'on tient avec le département, où on attribue ces aides suivant différents critères forcément. Donc ce qui fait que on a une vision assez fine du budget des jeunes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de budgets étudiants qui sont à l'équilibre via des jobs étudiants en plus. Sauf que là, on a passé une période où les jobs étudiants, il n'y en a plus. Donc on se retrouvait de budgets qui étaient à peine à l'équilibre avec des moins de 300, moins de 400, moins de 500 euros tous les mois. Voilà. Les revenus de ces fameux jobs étudiants. Donc là, la mairie de Mende et le département en ont pris conscience. On s'est retrouvés, on s'est réunis pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Le Crous Montpellier-Occitanie, en fait, le Crous au niveau national, c'était une décision nationale, des fameux repas à 1 euro dans les restos U, l'idée c'était que tous les étudiants aient accès deux fois par jour à un repas à 1 euro. Sauf que nous, on n'a pas de resto U en Lozère. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc avec la mairie de Mende, on a mis en place très rapidement les chèques étudiants. Donc là, on avait les étudiants nous faisaient des demandes, on les mettait en relation avec le Crous de Montpellier, il y avait une évaluation sociale qui faisait éligible, pas éligible, et ça permettait aux jeunes d'avoir par mois un chèque de 250 euros pour de l'alimentaire, pour des produits de première nécessité. Donc voilà, ça a pu être mis en place très, très rapidement, on était très réactifs. Pareil, le travail de partenariat avec la mairie de Mende, voilà. On s'appelle, tac tac, on se cale, enfin voilà, on n'a pas passé 6 mois à réfléchir au truc, quoi. Donc ça s'est fait très rapidement. Donc ça c'est chouette, et de façon très pragmatique, concrètement, de quoi il y a besoin. Et donc entre le Crous, la mairie de Mende, la mission locale, tac, tout de suite ça a matché. Et tout de suite on a pu trouver des solutions concrètes. Donc là je remercie le Crous et la mairie de Mende d'avoir été si réactifs à ce niveau-là. Et avec le département, donc là on était sur une vision plus départementale, où là, l'idée, c'était de pouvoir proposer un repas chaud équilibré par jour aux étudiants. Donc ça, c'était la présidente du conseil départemental. L'idée de repas équilibré, de repas chaud, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, et à juste titre. Et donc, on a mis en place avec le lycée Chaptal. Donc là, on a fait ça, département, mission locale, lycée Chaptal, pour que tous les étudiants, pas que Mendois, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa carte étudiant, y compris quelqu'un qui faisait ses études à Montpellier, mais qui est en distanciel à Mende, du coup, ou quelqu'un qui étudie à Mende, tous les étudiants, à partir du moment qu'on avait une carte étudiant, pouvaient aller manger du lundi au jeudi au lycée Chaptal pour 1 euro. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. Le repas coûte plus cher, le repas il coûte 4,10 euros, mais les 3,10 euros sont pris en charge par le département, via ce fonds d'aide aux jeunes qu'on a en gestion. Donc voilà, avec des dispositifs qui existent, on a réussi à faire matcher. Et encore une fois, deux, trois rendez-vous, deux, trois réunions, on a monté quelque chose. Et là, on a eu les chèques étudiants, on en a distribué quand même bon nombre. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, de façon assez conséquente. Et là, on a des jeunes qui sont allés manger régulièrement au lycée Chaptal. Donc on a pu être réactif et pallier à cette précarité étudiante induite par cette pandémie qu'on a traversée.
Cathy ?
Oui, je voulais vous demander, au vu de votre expérience, quels conseils vous donneriez aux jeunes qui ont peur de rentrer dans la vie active ou d'aller à la mission locale ?
Alors, peur de rentrer dans la vie active, je vous dirais qu'ils viennent nous voir.
Voilà.
Après, peur de venir nous voir à la mission locale, franchement, je ne sais pas comment me faire pour les rassurer, mais dire qu'on a on a une super équipe, on a des gens qui prennent à cœur leur métier, qui sont sympas en plus, bon, ça gâche rien, voilà, mais on ne juge pas. Le jeune, il peut venir nous voir pour n'importe quoi. C'est pas un souci. On va pas lui dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet. C'est de quoi il peut avoir besoin. On propose nos aides, il peut s'en saisir ou pas. Il peut repartir en disant bon, c'est pas pour moi. Comme on peut l'accompagner un mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans. Voilà. On a des collaborateurs qui sont investis. C'est pas pour rien qu'ils font ce métier-là. Hein. Ils font ce métier-là parce qu'ils l'ont choisi avec une réelle bienveillance. Que ce soit sur le dispositif garantie jeune ou sur les conseillers de secteur. Donc ça, ce que je vous dis là, c'est valable sur les 14 lieux de permanence. Hein. Demain, on va avoir une application mobile. On est en train d'y travailler. Donc qui sera à la fois application mobile, à la fois site internet. Donc j'engage des jeunes à la télécharger. Ils pourront d'un coup d'œil voir ce qu'on fait, ce qu'on propose. Dans un deuxième temps, ils pourront prendre aussi directement un rendez-vous via cette application-là. Ça ne sera pas opérationnel tout de suite, mais ça sera dans un second temps. Mais après, sinon, voilà, un coup de fil ou passer nous voir. Même si j'habite au fin fond des Cévennes ou sur l'Aubrac, le numéro de téléphone de la mission locale, 04 66 65 15 59, appelez, et ils tombent sur, 9 fois sur 10, ils tombent sur Claire qui est au téléphone, qui va leur demander un petit peu de quoi ils peuvent avoir besoin, les orienter sur un conseiller de leur secteur pour leur éviter de faire des déplacements trop importants. On essaye d'être, je le disais au début, d'être assez réactif, hein, donc c'est pas un rendez-vous qu'on va proposer dans 3 mois. Hein. On sait faire face aussi à des notions d'urgence. Hein. Donc voilà, quelle que soit la demande, elle sera de toute façon traitée. Soit par nous, soit éventuellement par un partenaire. Pourquoi pas, on mettra en relation. Voilà, ça c'est pas un problème. Mais vraiment, écoute, bienveillance dans un premier temps. Et puis après, on voit ce qu'on fait.
Vous l'aurez compris, c'est une belle équipe, c'est vaste, c'est passionnant, c'est important. La mission locale de Lozère, c'est 14 boulevard Henri
Bourillon.
plus 13 permanences, toutes les infos de vos plateformes, le site internet, on met tout ça, tous les liens sur nos pages respectives. Mmh. Merci beaucoup, Christophe Henri.
Merci de m'avoir reçu et merci pour l'équipe de la mission locale. Voilà, c'est chouette de pouvoir bénéficier de votre auditoire. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.
Avec grand plaisir, vous êtes le directeur de la mission locale Lozère, c'est important de le dire. Voilà pour cette deuxième émission entre Dry et Bartas à la régie pour Télédry. Il y avait Christian Pierrette, Raphaël était derrière la caméra. Le son, c'était pour Radio Bartas, il s'appelle Corto. Merci beaucoup à eux, à la présentation. C'était Cathy pour Télédry, François pour Midi Libre. Je m'appelle Ben pour Radio Bartas. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. La prochaine télé entre Dry et Bartas, ce sera sans doute après l'été. On s'attachera encore à toujours faire des portraits de personnes qui font de ce territoire si attachant qu'est la Lozère. À très bientôt entre Dry et Bartas. Ciao.
Entre Dry et Bartas, une émission proposée par Radio Bartas et Télédry.